Peur de bruit de tôle.
La prison a détruit nos vies. Prison, détruisons toutes les prisons. Le reflet a remplacé le mieux épais, maléfique progrès.
Le temps ne veut plus rien dire. Ma tête tourne, 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 tourne. Comme une bête enfermée, je suis folle alliée. Maudite société, à nous offrir que les mots et les images de ta télé. N'as-tu jamais entendu dans cette jour, le jour, le jour, le jour, les cris et les plaintes des forces à modèle? À quoi vont crier dans cet univers déshumanisé? Les murs et les portes n'auront plus d'oreilles. La souffrance et le supplice sont vraiment double, 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 double. Quand pour pouvoir cantiner, je dois vous.
Une émission qui veut agir pour la suppression des prisons et pour la remise en cause du principe de punition et de contrôle. Nous voulons nous attaquer aux murs plus ou moins visibles des institutions qui diffusent l'enfermement et la soumission dans tous les plis de la société, comme la famille, l'école, l'hôpital, les maisons de retraite, celles de la culture et bien d'autres. Le système judiciaire resserre l'étau sur les pauvres et les insoumis, les classes dangereuses en somme. Il enferme de plus en plus tôt, sous prétexte de délinquants juvéniles, de plus en plus souvent en allongeant la liste des délits, et pour des peines de plus en plus longues. Et malgré une croyance tenace qui veut que la prison soit toujours réservée aux autres, la menace permanente qu'elle laisse planer sur l'ensemble de la population entretient la peur et la soumission. Longtemps tabou, la prison est devenue un sujet médiatique, à la mode, pour spécialistes de toutes sortes, sociologues, médecins, criminologues, politiques, occultant toujours la parole des personnes enfermées. Bruit de tôle se veut un espace de réflexion sur les enfermements, un lien entre l'extérieur et l'intérieur des murs. Ce que nous voulons, c'est mettre en évidence les rouages d'un ordre social qui prétend gérer nos vies, nous soumettre à l'État et désamorcer, assimiler, digérer, récupérer toute déviation, colère ou révolte. Nous rêvons d'une société sans maître ni esclave, sans coupable ni victime, sans juge ni condamné.
Et voilà, c'est Bruit de tôle. Alors, au sommaire de cette émission, normalement, on est le deuxième jeudi du mois et c'est la chronique du Génépi, des bénévoles qui interviennent auprès des prisonniers et des prisonnières. On les attend d'un moment à l'autre. Nous aurons une rubrique internationale où on abordera un sujet tabou, sûrement, car il s'agit de l'emprisonnement des lesbiennes, gays, bi et transsexuels en Turquie. Restant sur l'international, on présentera une brochure sur les prisons grecques et les quartiers d'isolement, quartiers C, dont on avait déjà évoqué leur existence à cette antenne. Suivra la lecture de la lettre d'Emma en prison en Angleterre. Un petit mot aussi sur l'ambiance accueil dans les commissariats du 93, mais comme nous sommes un média et un vrai, nous n'occulterons donc pas le stress des CRS épuisés par un vigipirate écarlate. Ce qui n'empêche pas cependant la machine à réprimer de tourner, pour Gaëtan, manifestant condamné, pour une visiteuse de prison, interdite de parloir pour avoir fumé un joint dans sa jeunesse. Bon, tout cela est réjouissant, mais gardons les yeux ouverts, enfin surtout les oreilles, puisque nous sommes à la radio, Canal Sud. C'est Bruit de tôle qui commence, en direct le jeudi de 19h à 20h, rediffusé le vendredi de 17h à 18h, et pendant le direct, donc vous pouvez nous appeler au 05 61 53 36 95, de préférence pendant les pauses musicales.
Juste à coup.
me brûle des heures que la haine. Arrêtons de massager le point, il faut brandir. Histoire d'être clean avec le régime. Essaye de défier mon débit de plomb. Toujours prêt à bondir.
Dépression pour les jeunes générations.
Les eunuques je les nique, les wacks je les kick.
Triple pas présent pour le Babylon Cross.
J'avais pas en marché, ton coup de la grande guerre.
Tête de con empêche l'évolution.
Comme un coup de feu de Glock sur le mic.
Comme tous les deuxièmes jeudis du mois, c'est la chronique du Génépi. À vous la parole.
Merci. Alors nous, du coup, on ressort tout juste de l'événement Tollart, donc qui est un événement sur une semaine qui avec beaucoup de d'événements. Oui, non, qui est plutôt beaucoup d'événements sur lesquels on parle de prison. Donc on aimerait bien refaire un petit point dessus pour un petit peu.
Oui, parce qu'il y avait de tout, il y avait du théâtre, il y avait des débats, il y avait de tout cela. Oui,
donc cinéma. On va reprendre les événements qui nous ont pas mal plu et qui j'espère non plus. Enfin, du coup, c'est, ouais,
c'est tous les ans au mois de mars. Hein.
C'est ça, une semaine. Du coup, c'était le lundi au Caméléon. On a eu une conférence gesticulée par un ancien génépiste. Est-ce que j'explique la conférence gesticulée ?
Oui, ouais. Oui, tout le monde n'est pas au courant. Hein, mais...
Alors du coup, c'est un petit peu une, c'est une conférence, mais qui n'est pas, qui n'est pas présentée par un professionnel en fait. C'est quelqu'un qui le fait avec son savoir, ses recherches personnelles. Donc du coup, comme c'est un ancien génépiste, il l'a fait sur sa base d'expérience personnelle au Génépi, donc dans les prisons. Et donc oui, c'était vraiment sympa. Il a essayé de faire participer tout le public et, sur les implications morales de la question carcérale. Et il suivait un fil rouge chronologique en rapport avec l'histoire de la prison. Donc ça amenait pas mal de monde, et notamment des personnes qui n'étaient pas trop sensibilisées, mais peu quand même.
Et donc, la conférence gesticulée, on invite quand même un peu le public à réagir, non ?
C'est ça, ouais, ouais. Ouais. Il y a vraiment, on parle avec le public et puis on fait des petits jeux. C'est sympathique.
Voilà, le jeudi, on a fait un débat sur la sexualité en prison. Donc, on avait comme intervenant M. Daniel Wetterlang, professeur de sociologie à l'université du Mirail. Et donc il a beaucoup parlé de la question de l'homosexualité en prison et du cas spécifique des personnes transsexuelles, puisque lui, c'est son domaine de recherche. Il travaille beaucoup sur ces questions-là, sur le genre, sur la construction de la masculinité et les personnes transgenres. Voilà. Donc ça a attiré beaucoup de monde. C'était un public qui n'était pas notre public habituel, donc c'était très intéressant. Et voilà, ça a permis de parler de ces questions-là qui sont pas forcément évidentes.
Qui
sont pas souvent évoquées.
Oui, oui.
Voilà, qui peuvent apparaître gênantes pour certaines personnes. Voilà. Voilà, la question de la sexualité en prison et particulièrement de l'homosexualité. Mmh. Ensuite, on a eu un monsieur qui est venu nous présenter. Il y avait un film. Et ensuite, il y a un monsieur de l'association Robin des Lois qui est venu, François Corbière, qui est venu parler de son association Robin des Lois, qui s'occupe, c'est une association d'avocats qui intervient en prison pour aider les prisonniers à faire valoir leurs droits. Tous les droits. Par exemple, il travaillait beaucoup sur leur permettre d'exercer le droit de vote. Mm-hmm. Parce qu'il faut savoir que les prisonniers ont le droit de voter, sauf si ça a été, explicitement stipulé lors du jugement. Et il se battait aussi pour l'égalité entre les différents prisonniers, parce que des prisons qui sont où la gestion est déléguée, souvent les prisonniers ont des prix qui sont pas les mêmes que dans les prisons où c'est pas une gestion déléguée.
Gestion déléguée, voilà. Ça veut dire gestion privée.
Voilà,
quoi,
c'est du
c'est privé public.
Voilà, enfin, privé public, oui, partenariat.
Voilà. Voilà, c'est des PPP comme ils appellent ça. Voilà.
Et donc les conditions d'incarcération et les coûts sont pas les mêmes d'une
prison
à l'autre.
Voilà. Par exemple, il citait l'exemple de la télévision. Par exemple, c'était pas du tout c'était deux fois plus cher quand c'était du privé, quoi.
On en avait parlé, voilà, la première fois qu'on est venu voir.
Voilà. Et l'événement du dimanche, c'était un théâtre forum. Donc le théâtre forum, c'est une façon de faire du théâtre qui a été inventé au Brésil. C'est le théâtre de l'opprimé. Ça vise à mettre... à faire réagir les gens et à leur permettre à essayer de trouver des solutions aussi. Donc là la scène c'était un
ouais, moi j'y étais ce dimanche là ouais. Donc ouais, c'était la compagnie du Grand I, je crois, qui présentait ça. C'était pour parler de l'après la prison, quoi, en
ouais
fait,
voilà voilà c'était l'après prison.
Donc c'était ouais non c'était intéressant ouais. C'était ouais, je peux peut-être en parler, je
oui
veux,
évidemment
ouais. Non, mais c'était en fait une scène qui était jouée, donc c'était un ancien taulard qui allait manger chez sa belle famille. Et bon, bah forcément, belle famille bien réactionnaire comme il faut, avec toutes les réflexions qu'on peut entendre et tous les préjugés possibles et imaginables, voire même plus. Et donc du coup, juste, ça allait jusqu'à un moment de... un peu de rupture où l'ancien taulard pète un plomb, il veut se casser. Et mais du coup, il est proposé à la salle, quoi, de remplacer un ou plusieurs personnages, tout en gardant la ligne, bien sûr, de ce personnage-là et sa personnalité et tout ça, pour essayer de faire peser dans la balance pour qu'on évite d'arriver à ce moment de rupture. C'était assez intéressant. Et puis après, il y a eu l'intervention de Karim Mokhtari, que moi, que j'ai trouvé un peu moins intéressante. Mais en tout cas, le débat était ouvert, c'était bien, quoi.
Ouais, ouais.
Donc, c'était bien pour ça.
Ouais. Moi c'est surtout ouais, j'ai vraiment apprécié le théâtre forum, quoi, et c'était vraiment c'était un des meilleurs événements du festival Tollart, je pense, cette année. C'était vraiment intéressant. C'est ça le principe, c'est de remplacer un personnage pour essayer d'aboutir à un dénouement différent, quoi. Voilà. Donc c'est en même temps un moyen de faire prendre aux opprimés conscience de leur oppression, et c'est en même temps un moyen de chercher des solutions pour éviter l'oppression.
Mais c'est bien dommage parce que la compagnie du Granty là, ils comptent pas la rejouer en fait cette pièce. Ils ont dit qu'ils l'avaient bossée juste pour Tollart et puis que après ils la rejoueraient pas. Mais bon,
on les réinvitera l'année prochaine.
Ouais, voilà, c'est ça.
En tout cas, bonne performance en acteur. <c'est... rire> je vais vous parler d'un film qu'on a vu. Enfin, c'est plutôt un documentaire. Et donc, si on a décidé de vous en parler un petit peu plus longtemps, c'est parce que pour vous inciter à aller voir, il est vraiment génial. Ça s'appelle La raison du plus fort, donc de Patrick Jean. Vous l'avez vu.
Mm-hmm.
Vous l'avez trouvé bien. Du coup, j'en parle quand même.
Ah oui, mais il y a les auditrices et les auditeurs qui tous... Il y en a certains qui, d'ailleurs, ne peuvent pas aller au cinéma. Hein, ceux qui nous écoutent et qui sont encore enfermés. Et puis, il y a plein de gens qui ne l'ont pas vu. Hein. En plus, ce n'est pas du genre de cinéma dont on parle dans les grands médias. Quoi.
Non, pour le coup, non.
Et du coup, c'était programmé à Tollart.
Ouais.
D'accord.
Et il était là, le réalisateur.
On l'a eu en visio.
D'accord.
Parce que je crois qu'il était en Belgique.
Ouais.
Parce que c'est...
Il est belge, donc il pouvait pas venir uniquement pour l'événement, mais ouais, on l'avait en visioconférence.
C'est un film qui est sorti en 2005, mais bon, c'est un sujet qui est encore d'actualité maintenant. C'est pour ça qu'on l'a visionné. Donc, il a été réalisé sur 2 ans, et en fait, dans le film, on part de du coup, les images partent, pardon, de fermetures d'usines en France et de la déconstruction de cités. Et on y voit parallèlement la construction de prisons, très excentrées du centre, évidemment. Donc pendant tout le film, il y a une analogie entre les usines, les quartiers. On rencontre toujours le même type de population, donc souvent des classes ouvrières, des immigrés, des fils d'immigrés, sont les plus représentés dans ce documentaire. Et du coup, ce sont toujours ces mêmes populations qu'on enferme aussi bien socialement qu'au niveau urbanistique, et qu'on retrouve à la fin en prison. Donc du coup, je vais vous raconter peut-être quelques scènes qui nous ont un petit peu... bien plus. Alors, au début, Patrick Jean, il va à la rencontre de jeunes de cité qui témoignent du coup de la discrimination dont ils sont victimes, et notamment par les forces de l'ordre. On constate qu'ils sont complètement conscients de cette exclusion sociale. Donc, il y a un jeune qui nous parle des transports, qui a peu de transports. Et que donc les services communs comme le cinéma, surtout le cinéma, il parlait du cinéma, sont très loin, donc du coup pas accessibles pour eux. Patrick Jean, il reste dans le même quartier, et il va rencontrer des habitants, donc il confirme un petit peu tout ce que les jeunes ont dit. Et il nous a montré, le monsieur qui l'interroge nous montre une vidéo sur des violences, je crois que c'est des CRS en fait, qui rentrent dans un anniversaire fait dans une cave, et puis des CRS qui gazent du coup tous les jeunes qui font la fête, qui apparemment n'embêtaient personne, d'après le monsieur qui nous montrait la vidéo. Donc du coup, ensuite on va à Lyon, Patrick Jean va à Lyon, et puis là c'était marrant, il était en train d'interroger un monsieur des cités de Lyon qui était devant un plan, et qui montrait que le plan montrait le centre-ville et puis les belles chaînes de montagne, mais qu'entre le centre-ville et les chaînes de montagne, il y avait quand même les quartiers qui n'étaient pas inscrits sur le plan.
Et ils n'existent pas. Sur le plan, ils n'y sont pas.
Non. Il y a Belge.
Nomadland.
C'est ça. Et là, ce qui était assez cocasse, c'est que il y a une dame, en fait, qui est venue au moment de l'interview. Elle a entendu ce que ce monsieur disait à Patrick Jean. Et donc, elle a sorti un petit peu tous les clichés. Donc, si vous n'êtes pas content, rentrez chez vous, tout ça. Et tout ça a été filmé. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce moment. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé ça assez impressionnant. Donc, elle se revendiquait catholique, tout ça. Donc, voilà, c'est tout ce qu'on peut sortir. Non, pas forcément. Elle revendiquait, donc c'est pour ça que je dis ça. Mais on peut imaginer un petit peu tout ce qu'elle a dit, du coup. Mais bien filmé, donc ça c'était... Et puis, voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans le film? C'était la... Oui. On a eu la situation d'un jeune de banlieue qui était en fait victime d'une bagarre. Et à ses plaintes légitimes, le procureur, je crois que c'était le procureur, qui lui dit c'est moi la loi, un petit peu fermement. Et donc, du coup, il matérialise pas mal la relation du pouvoir. Donc, il a pu filmer aussi une comparution immédiate sur une personne aussi victime de violences par des contrôleurs de métro,
je crois.
Parce qu'il n'avait pas de ticket. Du coup, ça s'est mal fini, les contrôleurs l'ont pris. Enfin, donc, c'est tout ce qu'il expliquait. Et à la fin, il filme dans une prison. Donc, il revient à la comparaison avec l'usine, où quand il parle de travail... Il dit qu'on en revient à la condition initiale du travail à la chaîne, en fait, dans les prisons. Donc, je crois que c'était une prison de Belgique, pour le coup. Il a filmé entre la Belgique et la France. Et il montre une scène assez choquante, d'un détenu, en fait, qui... on n'a pas vu ça, hein, évidemment, qui tentait de se pendre. Et comme punition, les gardiens l'ont mis au mitard à poil. Et on entendait le détenu, il hurlait, là, pour le coup. C'est vraiment, il hurlait qu'il voulait ses cachetons, ses tranquillisants, et puis qu'on le laisse tranquille dans sa cellule, qu'avec ses tranquillisants, il se pendrait plus, quoi. Donc, voilà, il dirait dormir. Donc, c'était des petites scènes comme ça, prises, qui nous sont bien plu. Et tout était vrai. Enfin, c'est vrai que des fois, on se dit... La cato qui vient, qui interrompt comme ça, le tribunal, la prison, on lui a demandé d'ailleurs comment il avait... Ouais, parce que c'est vrai que c'est très...
À la mode de TF1, quoi.
Oui, enfin, on n'aurait pas montré ça à Tollard quand même, mais... Et donc, ouais, non, tout était vrai, et c'est vraiment un super, super docu. Si vous avez l'occasion de le voir... Foncez.
Et puis on retiendra facilement son titre parce que justement il illustre bien toutes les scènes que tu as dit, c'est la raison du plus fort.
La raison du plus fort, ouais. Et on
de
voit.
De Patrick Jean.
C'est ça. Puis il nous dit au début, à la fin, que sommes-nous en train de faire? Avons-nous perdu la raison? Voilà, c'était la petite trace philosophique de la fin.
Ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça montre la construction sociale un petit peu de la délinquance, ces classes populaires qui deviennent des classes dangereuses et qu'on met à l'écart, que ce soit dans le quartier, que ce soit dans l'usine, que ce soit dans la prison. On les met à l'écart du centre-ville, des gens qui sont considérés comme les gens bien. Voilà, c'est une mise à l'écart qui est à la fois culturelle, à la fois sociale, à la fois géographique. Voilà, de toutes les façons possibles, on les écarte de...
C'est une volonté politique.
Du centre, ouais.
C'est une volonté politique. Voilà.
On les met à la marge.
Mm-hmm. C'est ça qui est... Après, on dit les prisons sont pleines, quoi. Mm. Oui. Oui, c'est sûr. Et donc, ça faisait partie de la semaine... C'était une semaine que vous aviez organisée, Festival Tollard.
Oui, voilà. c'est ça.
Il y avait des expos aussi, ou il y avait d'autres... Qu'est-ce qu'il y avait, non? Non, c'était par rapport au mot art, Tollard.
Oui, c'est une question
qu'on demande toujours. Voilà, c'est
oui,
pour ça.
C'est vrai. Bon, après l'art, on a parlé tout à l'heure du théâtre forum. Je pense qu'on peut considérer ça comme de l'art.
Aussi, oui,
voilà, ouais. Donc, en expo, donc au fil à plomb où se déroulait le théâtre forum. Alors, je ne sais plus qui exposait, mais c'était des peintures en fait sorties de prison. qui était, oui, en fait, ça représentait des visages, donc enfin des personnes avec des barreaux, enfin faits en scotch adhésif. Par contre, je suis désolée, je ne sais plus du tout qui exposait ça.
Et puis il y a eu, il y avait aussi la soirée slam où c'était, ça aussi c'est de l'art quoi, le slam.
C'était où la soirée slam? Au
Filaplan aussi.
C'est Arnaud Bernard, c'est ça?
C'est ça.
Ouais. C'est bon. Et ben on remercie beaucoup le Génépi pour ce témoignage et cette chronique et on vous dit au mois prochain alors.
Ça marche, oui. Merci beaucoup.
Allez, on s'écoute un petit peu de musique et puis on revient derrière avec l'actualité internationale.
You are seeking, just traveling.
Vous êtes bien sur Canal Sud dans Bruit de Tôle. Je ne veux pas encore ouvrir les micros de mes compères et je vais tout de suite répéter ce qu'elles viennent de me dire hors antenne. Elles ne sont pas contentes de la sélection musicale. Très bien, bon, il faudra la
mais
faire
si,
pour la prochaine fois.
On l'a trouvé très bien, mais ça donnait une ambiance super cool. Ouais.
Alors,
on va partir en Turquie du coup.
C'est ça, on part en Turquie du coup parler d'un projet de prison pour les LGBT et donc du coup de l'enfermement des LGBT en Turquie. Alors du coup, pourquoi parler de ça? Pas spécialement parce que ça se passe en Turquie, c'est pas vraiment pour stigmatiser la Turquie, parce qu'a priori, de toute façon, que ce soit pour les lesbiennes, les gays, les bisexuels ou les trans, l'enfermement, c'est un petit peu partout problématique. Mais c'est surtout parce qu'il y a très peu d'informations qui sortent sur ce genre de sujet, qu'on voit souvent quand même l'incarcération, comme quand on pense la prison, on pense vraiment à l'incarcération des hommes en particulier, on pense moins à l'incarcération des femmes et encore moins à l'incarcération des LGBT. Donc, selon le ministère turc de la justice, il y aurait 79 LGBT, donc c'est-à-dire lesbiennes, gays, bi et trans, qui seraient actuellement emprisonnés dans les prisons turques. Bon, le nombre réel est vraisemblablement plus important, car les chiffres de ministère ne prennent en compte que les trans. Donc M2F, on dit ça comme ça, donc qui passent d'homme à femme et qui sont reconnus comme tels. Et les homosexuels cachent quand même généralement leur orientation sexuelle en Turquie. Donc a priori, leurs chiffres sont quand même quelque peu à remettre en question. Voilà. Donc il existe des quartiers réservés aux trans dans les prisons d'Istanbul, d'Ankara et de Korum. Et dans les autres prisons, les trans donc, qui ont obtenu un changement de sexe sur leur carte d'identité donc sont détenus dans les quartiers femmes. Et les donc, hommes vers femmes qui n'ont pas été reconnus de manière juridique bon, sont toujours enfermés dans les quartiers hommes. Bon, ça se passe un peu par, de la même façon dans tous les pays, hein, mais bon. Et donc les homosexuels et les lesbiennes sont répartis en fonction de leur genre. Là, il n'y a pas de question de trop qui se pose. Donc selon la loi turque, l'isolement est réservé aux prisonniers condamnés à perpétuité, à ceux qui ont contracté des maladies contagieuses et à ceux que l'administration veut punir. Et pourtant, l'administration pénitentiaire turque maintient les prisonniers LGBT en cellules d'isolement. Donc de manière tout à fait illégale. Les autorités pénitentiaires affirment qu'elles recourent à cette mesure pour protéger les prisonniers LGBT des agressions. Mais les témoignages de prisonniers et prisonnières qui ont pu être recueillis et les associations LGBT n'y voient qu'une autre forme de discrimination. Donc, après sa condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme pour discrimination envers un prisonnier homosexuel qui avait donc porté plainte pour avoir été emprisonné donc en cellule d'isolement pendant 11 mois, la Turquie a lancé la construction d'une prison spéciale pour les LGBT qui devrait ouvrir ses portes dans la troisième ville du pays, Izmir, en 2017. Alors, la Cour européenne a considéré que le fait de mettre des prisonniers LGBT dans des cellules d'isolement ne relevait pas de la protection de ces prisonniers, mais qu'il s'agissait d'une discrimination liée à l'orientation sexuelle. Alors, on pourrait voir, du coup, la construction d'une prison spéciale pour les LGBT comme une avancée pour leur protection et leurs droits. On va voir dans quelques instants que ça soulève, en Turquie, en tout cas dans les milieux LGBT, beaucoup de questionnements et d'opposition. Mais avant d'aller plus clairement sur le terrain des associations... Du coup, je voulais relayer le cas un cas individuel un peu pour expliquer comment ça peut se passer, de Rosinda Koyunsu, donc 26 ans, qui est prisonnier et homosexuel, et qui pendant ces deux années de prison, les surveillants l'ont maltraité et il a subi des agressions de la part d'autres prisonniers. Alors il raconte: quand je suis arrivée en prison, je n'ai rien dit de mon orientation sexuelle. Mais l'administration pénitentiaire l'a découvert après une enquête qui lui a révélé que j'avais participé à des manifestations LGBT. pour le coup, Rosinda était en prison parce qu'il était soupçonné d'appartenir au PKK, donc le Parti des Travailleurs du Kurdistan, donc un parti kurde, donc à peu près aucun rapport. Donc après cette enquête, donc ils ont donc découvert qu'il était homosexuel. Elle a voulu que je fasse un check-up médical. J'ai refusé parce que cela incluait un examen anal. Ils m'ont alors contraint à voir un psychiatre, car de leur point de vue, l'homosexualité est une maladie, et un rapport médical devait le spécifier. Ce rapport lui aurait permis de me mettre dans une cellule d'isolement. Mais le psychiatre a refusé de faire ce rapport. Mes compagnons de cellule étaient au courant de mon homosexualité, mais cela ne leur posait pas de problème. Peu importe. L'administration pénitentiaire m'a rapidement déplacée dans un autre quartier de la prison. Ils m'ont mis avec un vieil imam qui m'a traité avec respect. Ils m'ont à nouveau déplacée dans un autre quartier, où les prisonniers connaissaient mon orientation sexuelle. Ils m'ont rejetée et insultée pour les raisons les plus futiles. Finalement, l'un d'entre eux m'a agressée et battue. Les insultes ont continué. Je n'en pouvais plus et j'ai dû finalement accepter l'encellulement individuel que l'administration pénitentiaire tentait de m'imposer depuis le début. Cela a duré 5 mois. On dirait un peu qu'ils ont fait exprès de le déplacer jusqu'à ce qu'il y ait des embrouilles, mais bon, bref.
Ça ressemble.
Ça ressemble un peu à ça. J'ai également subi du harcèlement sexuel de la part de surveillants qui savaient que j'étais homosexuelle. Par exemple, pendant les fouilles, ils touchaient mes organes génitaux. Je ne sais pas s'ils l'ont fait pour me harceler ou parce qu'ils étaient eux-mêmes homosexuels, mais ils l'ont fait. Alors, il conclut en disant « Si je peux choisir, je préfère évidemment être incarcéré dans une prison spéciale plutôt que de me retrouver à l'isolement. Mais la vraie solution, ce serait d'améliorer les conditions de détention. À mon avis, il devrait y avoir des quartiers LGBT dans toutes les prisons. » Donc, les associations LGBT turques et nombre de prisonniers LGBT donc, sont fermement opposées à la prison pour LGBT, qui est d'ores et déjà appelée prison rose. Elles pensent que cela ne va faire qu'accentuer les discriminations à l'encontre des LGBT. Puisqu'évidemment, si vous allez dans une prison étiquetée LGBT, comment voulez-vous cacher votre orientation sexuelle à votre famille ou au cercle de personnes que vous fréquentez?
Parce qu'en plus, sans même avoir le cachet, on n'a pas non plus à l'étaler sur la place publique. Quoi.
Non.
Nos préférences, c'est ça.
Et là, du coup...
Et surtout que la société, là, est quand même assez répressive. Ouais, et puis, socialement.
Et homophobe aussi, quoi.
Et homophobe, oui, c'est ça.
Et donc là, ouais, le fait même d'être détenu dans cette prison...
Va stigmatiser, puis c'est comme une apartheid sociale aussi. Hein. Au lieu de résoudre le problème en acceptant la différence, au contraire,
On l'accentue, quoi.
On les exclut, quoi.
C'est ça. Et puis, du coup, regrouper du coup, tous ces prisonniers et prisonnières dans une seule prison, bah, ça veut dire aussi que pour les proches qui voudront aller les voir, ça va être compliqué parce que bon, tout le monde n'habite pas à côté d'Izmir, quoi. Donc,
la Turquie, c'est un peu grand aussi.
C'est ça. C'est pas comme si c'était un petit peu compliqué. Bon, après, du coup, c'est vrai que... En France aussi, enfin là, du coup, c'est une info qui était sortie du coup dans un courrier international et du coup en cherchant un peu, moi j'ai trouvé des infos sur des sites du coup turcs en anglais. Mais c'est vrai que même si on voit la situation de l'emprisonnement des LGBT en France ou ailleurs dans le monde, il y a quand même très très peu d'informations. Il y a vraiment peu de gens qui s'intéressent à la question. Mais il y a quand même, du coup, pour celles et ceux qui voudraient un peu approfondir, il y a quand même une brochure qui est sortie, qui s'appelle « En finir avec le placard, recueil de textes de prisonniers, prisonnières, politiques LGBT ». Donc du coup, c'est plutôt, des prisonniers et prisonnières américaines, mais du coup, c'est quand même assez intéressant à lire si ça vous a donné envie d'approfondir la question.
Et en parlant de brochures, justement, une nouvelle brochure, pas très loin de la Turquie, sur la situation grecque, vient de sortir. Elle est intitulée « Toutes les valeurs de cette société sont des prisons de haute sécurité ». C'est à propos de la dernière réforme du code pénitentiaire grec et de la lutte contre les prisons de type C en Grèce. On vous en avait déjà parlé un petit peu dans Bruit de tôle de cette loi. On va revenir un tout petit peu dessus pour savoir de quoi on parle. Mais en tout cas, cette brochure... vous pouvez d'ores et déjà la trouver, elle est en libre accès sur internet, comme pas mal de brochures. C'est paru aux éditions, ben voilà, ça y est, j'ai perdu l'information, je l'avais devant moi, mais je vais la retrouver, et puis voilà, Ravage Édition, voilà, donc vous tapez Ravage Édition, et vous allez tomber sur cette brochure assez facilement. Son titre, c'est « Toutes les valeurs de cette société sont des prisons de haute sécurité ». Et donc, parmi de nombreux textes, des chiffres, des cartes, des slogans, elle est assez bien faite, hein, elle fait quand même pas loin de 60, elle fait plus de 60 pages, donc c'est assez conséquent. Et donc elle regroupe pas mal de choses différentes, notamment des communiqués de prisonniers, des déclarations aussi des prisonniers qui étaient enfermés dans les prisons de type C, justement. Donc il y a eu 3 déclarations qui sont donc là, dans cette brochure-là, mises chronologiquement en tout cas. Et puis ensuite, des déclarations de grève de la faim, des appels internationaux également, et puis ensuite un petit peu de texte idéologique, mais pas tant. On va revenir un petit peu sur ces prisons de type A, B et C, notamment les prisons de type C. En fait, tout a commencé en 2013, lors de l'évasion massive de 11 détenus de la prison de Trikala, prison pourtant vantée pour ses qualités sécuritaires. Cette évasion a lancé le débat, justement, entre guillemets, sur la sécurité en prison chez les politiciens grecs et leurs médias. Et c'est la première fois, en fait, que vient sur le tapis la question des prisons de type C. Donc ça, c'était en 2013. C'est donc les prisons de type C, ce serait un nouveau régime à cette époque. Donc c'était au conditionnel, un nouveau régime sur le modèle de la haute sécurité et des modules d'isolement disciplinaire, des sortes de quartiers haute sécurité ou des FIES à la mode grecque. Donc Trikala, cette prison, elle était déjà considérée comme une prison de haute sécurité, et donc l'État grec était bien emmerdé qu'il y ait eu une évasion aussi importante depuis cette prison. Et donc il fallait monter un peu les enchères de la sécurité carcérale, pardon. Et donc le sujet revenait sans cesse sur la table, par exemple à chaque fois qu'il était question de nouvelles affaires d'évasion ou d'armes lourdes en tôle. Et donc en janvier 2014, la proposition est relancée avec une nouvelle évasion. C'était l'évasion de Christodoulos Xyros, ex-membre de l'organisation du 17 novembre. L'organisation du 17 novembre, c'est un groupe de lutte armée anti-impérialiste et communiste. Et puis ensuite, en mars 2014, lorsque le prisonnier Ilias Kareli, un prisonnier de longue peine, a été retrouvé mort au mitard de la prison de Nigrita après avoir été tabassé pendant son transfert, quelques jours après avoir tué lui-même un maton torsionnaire de la prison de Malandrino. Sa mort avait provoqué un des plus grands mouvements de prisonniers grecs depuis 2008, pile poil au moment où l'État commençait à parler des prisons de type C. Et donc, en réponse à ce meurtre d'État, les prisonniers des ailes B et C de cette prison et ceux des ailes A, B et C de la prison de Patras ont fait la grève des plateaux et ont refusé de rentrer dans leurs cellules à de nombreuses reprises. Bref, ça a été une escalade, en fait, entre des positions sécuritaires et répressives d'un côté et des révoltes de l'autre qui étaient matées, quoi. Et donc, du coup, pour répondre aux révoltes, il fallait répondre par la sécurité, et pour répondre à la sécurité, il fallait se révolter. Donc, du coup, tout ça, ça a été un joyeux vacarme jusqu'en juillet, enfin, et même après, mais en tout cas, en juillet 2014, il y a la ministre de la Justice Athanasos qui pond enfin sa nouvelle loi qui réforme le code pénitentiaire et qui crée donc, comme on en a parlé, 3 catégories différentes de prisons et de prisonniers, donc, puisque les prisonniers aussi se retrouvent dans ces catégories-là. Le type A, les prisonniers pour dette, les balances, les prisonniers qui collaborent, qui font preuve de bonne conduite, les petites peines de moins de 5 ans, ils ont toutes les, entre guillemets, faveurs de la pénitentiaire.
Et entre guillemets, petites peines. Hein,
oui, entre guillemets, petites peines, parce que 5 ans, c'est quand même super long, quoi. On est d'accord, on est d'accord. Et donc ces prisonniers-là se retrouvent dans des conditions favorables de détention, dites favorables, donc plus de permissions, plus de promenades, plus de parloirs et moins de mesures disciplinaires. Les types B, c'est les prisonniers de droit commun, rien va changer pour eux, le régime de détention reste à peu près le même, soi-disant. Et les prisonniers de type C sont condamnés sous 2 articles, 187A et 187, tout court, qui sont des prisonniers considérés comme dangereux. Forcément, on a le même concept de dangerosité un peu partout dans le monde. Et donc, un prisonnier de classe C sera soumis à ce régime pendant une durée minimum de 4 ans. Voilà. Donc, si t'es dangereux un jour, t'es dangereux toujours. Et après quoi, il est possible d'être reclassé sur avis des procureurs. Donc, on imagine que c'est pas simple d'être reclassé. Et en Grèce, chaque prison a son procureur, donc c'est des procureurs de la pénitentiaire, et chaque prison a son procureur attitré qui répond à ses décisions à l'administration pénitentiaire et au ministère de la Justice. Poste en fait sans réel équivalent en France, c'est en fait des procureurs de prison qui décident du placement en catégorie C d'un détenu, ils sont faits pour ça. Et donc les prisons pour accueillir les détenus de type C sont logiquement beaucoup plus strictes que les autres. Elles sont dotées d'un système de surveillance panoptique, les permissions y sont interdites, le courrier et les livres sont également censurés, moins de parloirs, et ils ne sont permis qu'avec la famille proche ou l'avocat. Donc il n'y a pas de parloir, d'amis, c'est impossible. Les contacts téléphoniques sont également restreints, et avec la nouvelle loi, ils ont aussi prévu des parloirs conjugaux, mais ils n'ont pas été mis en place, tiens, c'est étrange. Donc les cellules dans les ailes, enfin dans les prisons de type C sont individuelles. Chose importante, le travail y est interdit. Donc voilà, tu restes croupir dans ta cellule tout seul. En Grèce, la législation pénitentiaire prévoit que la peine doit être effectuée minimum aux 3/5 pour pouvoir demander une remise en liberté sous condition. Et par ailleurs, ce pourcentage prend en compte le fait qu'un jour de travail en prison est compté comme 2 ou 2,5 journées d'emprisonnement selon le travail effectué. Là, il va falloir revenir un petit peu sur la question parce que je comprends pas tout à fait ce que je viens d'annoncer. Mais en tout cas, il y aura peut-être plus de détails. J'ai pas eu l'occasion de lire la brochure en entier. Elle est sortie il y a juste quelques jours. Et donc, la durée incompressible de la peine est de 1/3, tant qu'il doit être fait, quoi qu'il arrive, et même si l'on travaille. Bref, tout ça pour dire que, bien évidemment, les prisons de type C sont juste gerbantes. Avec cette loi,
Je sais pas, c'est quand on sort de là, quand on sort de ces prisons-là, il faut voir dans quel état on va être.
Hein. Ouais, voilà, c'est ça. C'est...
Lutte contre la dangerosité, je sais pas, mais quand on a vécu ça pendant 4 ans.
Ouais, pendant 4 ans minimum, puisque c'est les... ouais, déjà.
On
c'est
sort des... avec une rage décuplée, il me semble.
Voilà, et donc, réduction des contacts entre les prisonniers de droit commun et ceux environ une 50 à l'heure actuelle dans toute la Grèce, issus des mouvements anarchistes et révolutionnaires aussi. Depuis plusieurs années, les politiciens grecs dénoncent une collaboration accrue entre les anarchistes et les criminels, initialement non politisés, selon eux. Et
Les criminels se politisent au contact des anarchistes.
Des anarchistes en prison.
Nouvelle,
voilà, donc ils ont qu'à libérer
bon,
tout
moins,
le monde.
Au moins, la prison servira à ça.
Donc voilà, on va pas rester trop traîné là-dessus, mais en tout cas, voilà, une chouette brochure bien mise en page avec des explications intéressantes et puis des témoignages aussi. Je rappelle quand même que dans le sommaire, il y a aussi des communiqués des prisonniers directement qui sont publiés, donc qui sont tous compilés dans cette brochure. À découvrir quoi sur le site de Ravage.
Ravage, le titre.
Ouais, c'est donc alors le site, c'est ravageedition.noblogs.org, et le titre de la brochure, c'est « Toutes les valeurs de cette société sont des prisons de haute sécurité », et donc c'est à propos des prisons de type C en Grèce.
D'accord. Et ben on souffle un peu.
Voilà, on souffle un peu, et puis on va revenir en France après ça.
La violence augmente, le gouvernement parle, et maintenant l'enfance a son système pénal. La peine capitale aux États-Unis, un exemple, une morale pour les autres pays. Un tas de minots derrière les barreaux, attendant tremblant l'arrivée des bourreaux. Beau le monde qu'on leur propose, sympa l'avenir qu'on leur impose.
Rien pour demain, juste un peu de chômage. Alors on tourne la page, on se dirige vers l'orage. La rage se propage, on nous met en cage, et rien pour demain. Rien pour demain, juste un débat sur l'enfance, leur violence, leur lendemain, le problème du présent. On pense avec science, où sont les finances? Rien pour demain, juste les associations qui sont là, qui font du bien, qui relèvent la nation. Et le pognon sert à quoi? À construire des prisons. Rien pour demain, du côté politique, le déclic est lointain, ils nous rajoutent des flics. Un beau lendemain, géré à coups de trique, et rien pour demain.
La violence explose, le gouvernement propose. Jette en prison avant tout l'overdose. Si t'as des idées, faut pas que tu les imposes. Tu deviendras le marginal de la section familiale. Passe ton bac, va à la fac. Pendant que tu es vas-y, va voter pour Chirac. Le trac, tu n'en veux bien incertaine. On choisit ta vie avant que tu montes sur la scène.
n'achètes du que flin comme en Amérique. Et rien pour demain. Non, rien pour demain, juste quelques constructions. On aligne les parpaings pour en faire des maisons. Où sont les jardins, les fleurs,
les papillons?
Rien pour demain, pas de planning familial. Les parents rentrent trop tard pour qu'on soit tous à table. Formidable, pas de voir, on apprend sur le câble. Et rien pour demain. Non, rien pour demain, surtout pas la culture. Quand on quitte le hall, c'est pour voler des voitures. On est pur, on est dur, on est le futur.
La violence menace, les gouvernements feignassent. Ceux qui ont les moyens en profiter à masse. On emploie des enfants, on les fait n'importe comment. On ajoute à l'amour la valeur de l'argent. Regardez les arrière-cours, explorez le tiers-monde. Arrêtez vos discours, c'est l'enfance qui succombe. Si demain il fait jour, c'est pas pour nous mettre à l'ombre. Votre tombe n'est pas si loin. Alors agissez tête au monde. Tête au monde. Agissez tête au monde.
George Bush Jr. Bush Jr. Bush Jr. Bush Jr.
Alors, pour commencer cette dernière partie de Bruit de Tôle, on va se déplacer au centre de rétention du Ménil-Amelot dans le 77. Quand il est entré, j'ai tout de suite vu les marques sur son visage, raconte Nicolas de la Cimade. Le 23 janvier, Anisté, sans pape placé en rétention administrative, débarque dans le bureau occupé par l'ONG. Un large bandage blanc barre son front. Nicolas note plusieurs hématomes sur son visage, sur les tempes et les pommettes. Il avait aussi de grosses plaques rouges sur presque tout le visage. À Nicolas, Anisté, 26 ans, fait le récit de son calvaire. Le 22 janvier, aux alentours d'une heure du mat, le jeune maghrébin est interpellé dans le 93 en compagnie de trois autres personnes. Une intervention musclée selon les quatre interpellés. Tous sans papier, ils sont menottés et embarqués. Direction le commissariat où ils sont placés en garde à vue. C'est dans les locaux de la police que tout aurait dérapé. Anis raconte avoir été isolé dans une pièce. Comme la procédure le stipule, on lui retire les menottes. Une dizaine de fonctionnaires entourent le sans-papier. Pendant la fouille, qu'Anis décrit comme brutale, il s'agite. L'un des policiers, sans aucune forme d'explication préalable, l'aurait alors aspergé avec un spray désinfectant. Une procédure assez courante, explique Nicolas de la Cimade. Ce serait ce produit qui aurait déclenché une forte réaction allergique et causé ces nombreuses marques rouges sur le visage d'Anis. Le sans-papier est effrayé, il tente de protester. Difficile de reconstituer le déroulé exact et chronologique des faits. Dans mon bureau, Anis était encore très effrayé. Il ne s'exprimait pas parfaitement, explique Nicolas. Mais malgré les mots hésitants, Nicolas comprend que le sans-papier a subi un véritable déferlement de violence. Entre les quatre murs de la cellule de fouille, un policier lui aurait balancé deux coups de poing, tandis qu'un autre le jette au sol. Alors qu'il est à terre, des agents le rouent de coups de pied dans les jambes et sur la tête. Anis appelle à l'aide. Ses amis entendent ses cris et les bruits de ce qui ressemble beaucoup à une ratonnade. En réaction, un policier ferme brusquement la porte, jusque-là laissée entrouverte. Anis est à nouveau menotté dans le dos, puis plaqué contre un mur. Il reçoit plusieurs coups de poing supplémentaires. Dans la mêlée, en plus des coups, les noms d'oiseaux pleuvent. « Toi t'es arabe, t'es de la merde, ta mère, fils de pute !» Est-ce qu'Anis s'est débattu trop brutalement, déclenchant ainsi les coups des fonctionnaires? Pour Nicolas, ça ne changerait pas grand-chose à l'affaire. Comment autant de policiers, on rappelle qu'ils étaient une dizaine, peuvent justifier un tel passage à tabac sur quelqu'un d'1m72, environ 65 kilos, et pratiquement tout le temps menotté? Quand son calvaire s'arrête, Anis est jeté en cellule pour le reste de la nuit. Impossible de dormir, tant les douleurs sont vives. Au vu de son état, des policiers décident tout de même de l'emmener à l'unité médico-légale de l'hôpital Jean Verdier de Bondy. Le certificat médical établi par le médecin énumère les différentes lésions et conclut que ces blessures entraînent une incapacité totale de travail de 10 jours. Donc, face à la gravité du cas, la CIMADE a décidé de saisir les services du défenseur des droits le 23 janvier. Une enquête est donc actuellement en cours. Mais il faut savoir que 5 jours plus tard, Anis passe devant le juge des libertés. Ce dernier constate de très nombreuses erreurs et manquements dans la procédure. Il décide en conséquence de la remise en liberté d'Anis. Et bien, ça aura été toujours quelque chose de positif dans cette histoire.
Oui. Bon, puis c'est pas joyeux, mais bon, faut bon, voilà, et, hein, bon, faut quand même revenir à des bases un peu plus sérieuses. C'est vrai que les policiers sont quand même surmenés en ce moment.
Les CRS
sont au bord du burn-out, nous dit le
journal de la démocratie.
Le journal de la démocratie, voilà. Les effectifs de 3 compagnies de CRS se sont mis collectivement en arrêt maladie afin de manifester leur mécontentement face aux effets du plan Vigipirate qui les épuise. Eh bien, ça tombe bien, nous aussi, ils nous épuisent. Ce mouvement a débuté à Toulouse vendredi dernier et s'est répercuté hier aux effectifs de Lyon et de Nancy qui devraient venir en renfort pour Vigipirate en région parisienne. Les forces de l'ordre se disent épuisées par le rythme et la tension du plan de défense. Les responsables d'unité se montrent inquiets, craignant une impossibilité pour les hommes de tenir le coup à long terme et moyen terme. Nicolas Comte, retenons le prénom et le nom, responsable du second syndicat de gardiens de la paix et de CRS, s'agace de cette situation. On a tapé sur les repos et la formation, les CRS n'en peuvent plus.
On leur a pas tapé dessus quand même.
Ah non, 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 quand même, faut pas exagérer, ça reste forces de l'ordre, hein, n'est-ce pas? Donc les niveaux actuels du plan Vigipirate, alerte attentat pour l'Île-de-France et les Alpes-Maritimes et Vigipirate renforcé pour le reste de la France ont déjà été prolongés jusqu'au 10 avril. Date de l'anniversaire de ma sœur, soit dit en passant, prolongation qui risque de s'allonger encore. Depuis les attentats contre Charlie Hebdo et l'hypercacher, un millier de CRS en moyenne sont mobilisés chaque jour pour protéger bien sûr les 830 sites sensibles en France. Donc voilà, bah, amis CRS, si vous voulez arrêter de travailler, c'est le moment, hein, pointer au chômage.
Non mais
ça nous fera du bien.
Grève, ouais, une grève générale de la police, ça pourrait nous faire souffler un petit peu, quoi.
Ouais,
c'est vrai,
ouais,
ça ferait des vacances à tout le monde, ça.
Et puis on pourrait peut-être manifester tranquille, parce que là, par exemple, on a le cas de Gaëtan. Ben, Gaëtan, il est condamné à 1 100 € d'amende, 2 mois de prison avec sursis pour avoir participé à une manifestation. C'était suite à l'assassinat de Rémi Fraisse.
C'était pas 2 mois, c'est pas 2 mois de ferme et 4 mois de sursis.
Mais non. Non, c'est le procès en appel. Il a fait appel et le procès en appel, c'est 2 mois de prison ferme, voilà, plus 4 mois de sursis, plus l'amende de 1 100 €.
Voilà, fallait pas faire appel, quoi.
Il fallait pas faire appel. Hein. Il faut jamais se rebeller, hein, de toute façon. Non. Donc, en fait, d'autres manifestations ont aussi confirmation des peines de prison ferme, hein, qui ont été prises. Et on parle là de personnes qui manifestaient. Alors, peut-être qu'il y a eu, comme d'habitude, hein, des altercations avec les forces de l'ordre, mais c'était en manifestation. Et tout ça a lieu dans le contexte d'une escalade répressive et d'une criminalisation croissante des mouvements sociaux, marquée par exemple par l'évacuation de la ZAD de Sivens, le déploiement dorénavant habituel d'un arsenal policier hallucinant lors des manifestations, on l'a vu à Toulouse, l'expulsion de la CGT de la Bourse du Travail, l'interdiction d'une réunion de la campagne BDS, ça, je pense que vous êtes au courant.
Ouais, on en a parlé.
Un militant d'Afrique du Sud qui venait pour parler du boycott et interdit à Paris, mais interdit aussi à Toulouse.
Sans parler de la LDH qui porte plainte contre BDS pour antisémitisme à Montpellier, quoi.
Ah bon.
Hein, ça, c'est magnifique, ça.
Et tout ça, ça sent un peu le cadre du fameux esprit du 11 janvier, hein, qui on nous sert toutes ces répressions.
Et même des grèves de CRS,
CRS. Donc je crois que Charlie, ça va, il nous a un petit peu, mais je crois qu'il faudra revenir un petit peu sur ces conséquences sociales du 11 janvier, en tout cas la récupération sécuritaire qui en est faite, quoi, et les condamnations fermes.
Non mais là c'est du ferme pour rien, quoi, voilà. C'est hallucinant.
Et alors on va passer tout de suite à une annonce. Alors là c'est les femmes qui en ont marre quand même un petit peu de se faire harceler dans la rue. En effet, on dit que quand on est dans la rue, ben, on n'est pas tout à fait tranquille, toujours surveillé. Et la cause des agressions, ça vient pas de nulle part. Elle résulte en effet d'un système patriarcal qui assigne les femmes à la disponibilité sexuelle permanente pour les hommes. Ainsi, refuser une avance, un verre, un regard, une insulte, ben, c'est refuser cette disponibilité. Et la violence verbale et physique sert à maintenir les femmes dans l'acceptation de cette domination et aussi en créant un climat de peur. Quand on sort dans la rue, n'est-ce pas, on doit ni marcher trop vite, sinon on se sauve, ni rester arrêté, sinon on racole, ne pas trop sourire, mais ne pas faire la gueule non plus. On n'est jamais dans une situation correcte. Donc les femmes qui appellent disent « nous rassembler parler en non-mixité permet de nous libérer du jugement et du regard masculin, jugement et regard dont on nous a inculqué qu'il fallait lui plaire, s'y soumettre. Cela permet aussi de dépasser la peur et la culpabilité, de nous retrouver ensemble pour lutter contre la violence patriarcale et pour la réappropriation de l'espace public qui doit appartenir à toutes et à tous. Alors il y a un rendez-vous vendredi 10 avril à 20h30 le soir au Capitole avec des lampes, des torches, etc. Plein de choses pour se rendre visible. Et c'est le collectif féministe du Mirail qui appelle à cette marche de nuit non mixte contre le harcèlement. Réapproprions-nous la rue.
Eh bien voilà, c'est la fin de l'émission.
Ah oui, pardon, excusez-moi, je dois clôturer et là je me perds toute seule. Donc c'est Brutal qui se termine. Donc si vous voulez nous contacter d'ici la semaine prochaine, vous pouvez nous envoyer une lettre, ça nous fait toujours plaisir, à Brutal, Canal Sud, 40 rue Alfred Duméril, 31400 Toulouse, ou un mail à bruitdetaule, bruit avec un S, detaule, D-E-T-O-L-E-S, @no-log.org. Et la rediffusion, c'est le vendredi de 17h à 18h. À la semaine prochaine.
Et bonsoir et bon courage.
Salut, à bientôt.
Salut.
Partout, si l'on en croit l'histoire, partout, on peut rire et chanter, partout, on peut aimer et boire. À nous la liberté, à nous la liberté. Pourquoi faut-il se compliquer la vie pour de l'argent se faire des cheveux alors qu'on peut vivre à sa fantaisie? Quand on est libre, on fait tout ce qu'on veut, on est heureux selon ses voeux. Mon copain, la vie est douce. Vivons ce que vivent les fleurs, ne pas en foutre une secousse. C'est là le secret du bonheur partout, si l'on en croit l'histoire partout. On peut rire et chanter partout, on peut aimer et boire. À nous la liberté, à nous la liberté. Il ne faut pas songer au mariage quand on est fait pour courir les chemins en attendant d'être assagi par l'âge. Contentons-nous d'amour sans lendemain. C'est le destin, mon vieux copain. Mon vieux copain, la terre est ronde. Les femmes vont de tous côtés quand on sera au bout du monde. Il sera temps de s'arrêter partout, si l'on en croit l'histoire partout. On peut rire et chanter partout, on peut aimer et boire. À nous la liberté, à nous la liberté.
Et voilà, c'est ainsi que se termine cette émission de Bruit de Tôle. Eh bien, vous êtes bien sur Canal Sud, si vous nous rejoignez à l'instant. Route 66 se prépare, l'émission Blues et Soul du jeudi soir, 20h-21h30. Avant Digit, l'émission furieusement garage jusqu'à ne plus soif, c'est ça. Voilà, si j'ai bien compris le programme de la soirée, restez bien connectés, 92.2 en région toulousaine sur la bande FM et www.canalsud.net sur internet. Bonne soirée à toutes et à tous et à la semaine prochaine pour un nouveau Brut de Tôle.